Bienvenue dans le 58e épisode de Parlons Golf. Je suis Lionel Bocher et cette semaine, nous allons parler investissement et engagement, sponsoring et golf féminin. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Baptiste Pain, vice-président South EMEA de Jabra. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Lionel.
Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'entreprise Jabra ?
Donc Jabra est une marque qui appartient à un groupe danois nommé GN Store à Nord, donc qui est une société cotée en bourse à Copenhague. On a trois grandes activités, mais qui sont toutes liées les unes aux autres dans le monde de l'audio et de la vidéo. Si je commence par la marque Jabra, on opère en B2B et en B2C avec des solutions audio et vidéo essentiellement pour la partie entreprise, mais également dans le retail, donc des solutions B2B, B2C pour les nommer. La deuxième grande activité s'articule autour du monde médical avec une gamme très large de prothèses auditives pour les personnes malentendantes. Donc on retrouve cette connexion avec le monde de l'audio. Et enfin, la troisième grande activité dans le monde du gaming, on a racheté en janvier 2022 la société SteelSeries, qui est une marque premium dans le monde du gaming. Donc voilà, c'est globalement les trois grandes activités du groupe. On a quelques autres activités annexes autour des applications industrielles et de la défense, avec des solutions pour le soldat connecté. Mais voilà, tout ça, c'est une expertise assez historique, puisque tel que le groupe existe aujourd'hui, on va dire, ça fait 30-35 ans, mais la société a été créée il y a plus de 120 ans maintenant. Donc, c'était une société, à l'époque, qui était un opérateur. On a tiré les premières lignes de télécommunication entre les pays nordiques et la Chine.
Voilà. Quel rôle vous avez décidé de jouer dans le monde du golf ?
Voilà, pour le coup, c'est vraiment une initiative personnelle qui remonte à 2015, mais plus particulièrement 2016, avec la création du Jabra Ladies Open, qui, sous sa forme actuelle, est connu comme étant un tournoi du Ladies European Tour, donc la première division européenne, et également aujourd'hui qualifiant pour The Amundi Evian Championship, qui est donc un des cinq majeurs dans le monde et le seul sur l'Europe continentale. Donc ça, c'est, je dirais que c'est le fil de l'histoire qui nous a amené progressivement vers ce statut. Et ça a été développé tout cela avec les équipes d'Evian, portées par Franck Rigoux et donc toute son équipe. Voilà, donc une très belle histoire qui s'est écrite au fur et à mesure des années et qui va continuer d'exister encore pour quelques années.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans le golf à travers votre entreprise ? C'est lié à votre passion personnelle pour la petite balle blanche ?
Oui, bien sûr, ça part de la petite balle blanche que j'essaye de pousser régulièrement. Non, pour plus sérieusement, déjà, je vais rajouter golf féminin. C'est là que notre implication s'est écrite. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre, comme bien souvent dans la vie. En 2015, j'ai rencontré Annelise Caudal lors d'un événement que j'avais monté pour mon entreprise, pour fédérer le business, puisqu'on sait très bien que parmi les activités sportives, le golf est probablement l'activité, ou en tout cas une des activités qui permet de rencontrer beaucoup de monde. Donc, je dirais que c'était le point de départ, mais ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de développer, c'est plutôt sur la rencontre avec Annelise. Donc Annelise a joué cette année sa 18e saison sur le Tour européen, qu'elle a brillamment conclu avec une carte complète pour la saison 2024 sur le Tour européen. Donc ça, c'était vraiment la très belle nouvelle du finish de l'Andalusia Open, Ladies Open, qui s'est joué donc à Marbella il y a quelques semaines maintenant. Donc, quand je rencontre Annelise en 2015, elle me parle d'un projet dont elle a entendu parler, où à l'époque, Gladys Nocera était impliquée en discussion avec Evian pour créer un événement féminin franco-français, golf professionnel. Donc, ça m'a intéressé, je me suis pensé sur le sujet, j'ai pris contact avec Evian, et puis effectivement, je suis tombé sur cette très belle équipe qui m'a effectivement confirmé le projet. Et en 2016, on a décidé de lancer le Jabra Ladies Open. Au départ, je crois qu'il y avait 30, 32 joueuses ou 34, je ne sais plus exactement, mais que des Françaises. On ne pouvait pas aller bien au-delà parce que bah, des joueuses professionnelles actives en 2016, il n'y en avait qu'une une trentaine. Donc on a commencé comme ça et puis bah, l'histoire est partie un peu comme, comme une furie. On a été badgé l'ETAS, donc la deuxième div féminine européenne, et puis co-badgé l'ETAS Lettres, et puis bah, au final, aujourd'hui, on est full Lettres avec cette qualification sur le majeur. Voilà, c'est vraiment une histoire qui s'est écrite sans plan. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on m'a dit, mais c'était quoi ton objectif au départ? Mais en fait, je n'avais pas d'objectif. Mais en écoutant Annelise, j'ai réalisé à quel point elles n'étaient que très peu supportées dans leur sport. À cette époque-là, 2016, 2017, 2018, les partenaires quittaient l'aventure, quittaient le bateau. Donc, elles avaient de moins en moins de moyens, de moins en moins de tournois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en 2018, elles sont tombées sur une saison complète à même pas une vingtaine de tournois.
Oui, je crois qu'il y en avait 15.
Voilà, hein, donc 52 semaines dans l'année. Donc le calcul est simple. Elles étaient occupées au tiers de leur temps et encore. Et encore, fallait-il qu'elles aient une catégorie complète, sinon bah, elles ne jouaient même pas tous les tournois. Donc, et avec des prize money qui étaient absolument ridicules. Je fais même pas de comparaison avec le circuit masculin parce qu'on est sur des rapports absolument énormes en termes de différence. Donc voilà, et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, nous, en tant qu'entreprise, bon, moi j'aime le golf, j'étais pas le seul dans mon entreprise, mon président m'a beaucoup supporté aussi à l'époque, bah, je me suis dit, avec nos petits moyens, on peut déjà essayer de faire mieux. Donc c'est ce que l'on a fait, on a commencé avec des prize money, je crois que le premier prize money, on devait être à 30 000 euros peut-être, quelque chose comme ça, enfin vraiment très bas, même pas le niveau de certains l'ETAS aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on est à 300 000 euros, donc c'est déjà un peu plus sérieux et avec la volonté de progresser. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé dans ce sport. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait l'arrivée de Jabra dans le golf féminin, c'est un peu comme une voiture plein phare à contresens sur l'autoroute. C'est que tout le monde nous voit, mais personne ne sait ce qu'on fait là, personne ne sait ce qu'on fait. À l'époque, c'est vrai qu'on avait une notoriété de marque qui était un peu plus faible qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Le Covid nous a largement fait accélérer de par les solutions que l'on construit, à savoir tout ce qui permet de travailler à distance. Mais voilà, c'est vraiment une histoire qu'on m'a racontée. Je me suis dit, en fait, on va aller aider ce sport et essayer d'y faire quelque chose de bien. Et je pense que c'est un peu ce qui a assis notre crédibilité aussi, c'est que vis-à-vis d'Evian, quand ils nous ont vus arriver, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer avec eux, on verra ce qu'ils savent faire dans la durée. Et 7 ans plus tard, on est toujours là, avec un joli plan pour 2024, 25 et 26. Voilà, c'est une histoire qui s'est écrite sans plan, mais qui déroule et qui est faite de manière très sincère, avec l'objectif de supporter les joueuses. Et elles nous le rendent très bien, d'ailleurs, dans leur communication, dans leur fidélité, dans la représentation de nos produits, qu'elles font quand elles ont l'occasion de le faire. Donc, c'est vraiment voilà, c'est une histoire assez patiente.
Parce que c'est un choix personnel, vous vous focalisez plus facilement, enfin, vous allez focaliser sur le golf féminin et jamais vous investir dans le golf masculin.
Oh, il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire déjà à développer l'existant. Donc, on a le Jabra Leeds Open qui se jouera du 23 au 25 mai 2024 à Évian, bien sûr. On a le Jabra Leeds Classic hein, qui se joue au mois d'avril à Glendower Golf Club, donc à Johannesburg, sur le Sunshine Ladies Tour, donc le circuit sud-africain que j'ai créé en 2018 ou 2019. Donc on a déjà ces deux tournois qui existent et ces deux tournois qui se développent. Hein. Le Sunshine Ladies Tour, pareil, quand on est arrivé, était un très beau circuit parce que bah, déjà c'est le circuit qui permet aux joueuses de jouer pendant l'hiver en Europe. Donc ça leur donne des occasions de jeu et de se préparer pour une saison complète en Europe et ailleurs. Donc on a un existant déjà qui demande qu'à être développé. Donc, je pense que déjà nos efforts. Faut savoir que ce n'est pas mon métier. Je suis pas organisateur d'événements de golf et encore moins d'événements professionnels. Donc, je m'appuie sur des structures existantes, mais c'est un deuxième métier qui prend finalement pas mal de temps. Donc, on a cet existant, on veut le développer. Après, si demain on a l'opportunité de créer un team Jabra qui fédérerait plusieurs joueuses et peut-être des joueurs également, eh ben, on étudiera le projet. Bon, c'est vrai que le contexte économique actuel est pas superbe, donc on a aussi nos enjeux sur notre business. Non, aujourd'hui, je regarde vraiment le golf féminin comme quelque chose qui doit continuer à être développé, doit continuer à être supporté avec des jeunes joueuses qui arrivent. Chaque année, on invite des amateurs sur le Jabra Open pour découvrir des nouveaux talents. Bon, le golf français féminin, en plus, en ce moment, est sous les feux de la rampe. Bon, voilà, la performance de Céline Boutier, plusieurs victoires dans la même saison, dont un majeur. Ça faisait 20 ans qu'on attendait qu'une Française soulève un trophée de majeur depuis Patricia Meunier-Lebouc. Donc voilà, je pense qu'on est au bon endroit au bon moment et on le fait surtout avec beaucoup de sincérité. Donc je crois qu'on va continuer dans cette voie-là.
Et est-ce que dans le golf féminin, à partir du moment où vous commencez à avoir une place, vous commencez à avoir un nom, est-ce que vous êtes du coup plus sollicité, puisqu'on sait que les sponsors, ça reste un peu le nerf de la guerre, surtout pour les femmes?
Oui, bah c'est constamment. Notamment quand vous êtes identifié dans le temps. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est que de faire une apparition sur une activité sportive en tant que sponsor ou créateur d'événements, de tournois, et que vous disparaissez la saison suivante, il n'y a aucune crédibilité qui s'installe. Je pense qu'aujourd'hui, on a une crédibilité. Parce qu'une fois de plus, on fait les choses avec sérieux et motivation. Donc oui, je suis constamment sollicité pour du sponsoring et autres. Mais je crois qu'il faut savoir garder un cap. Si on veut vraiment développer dans le temps et développer des nouvelles choses, ce qu'on essaye de faire, c'est d'embellir finalement nos tournois. Chaque année, on essaye de rajouter des choses. Par exemple, le Players Lounge, quand on est devenu full Elite. Dans le cahier des charges, vous avez un Players Lounge. On n'avait pas besoin de l'avoir dans le cahier des charges. Ça faisait partie des objectifs d'apporter ce confort aux joueuses. Elles se baladent d'un continent à un autre en permanence. Donc, c'est d'essayer d'offrir un maximum de confort, un maximum de services sur nos événements. Donc, je ne résiste pas à toutes les sollicitations, mais je les trie avec sérieux et. J'essaie toujours de prendre des nouvelles idées, puisque des nouvelles idées, elles se présentent très souvent. Mais on peut pas être partout et tout faire bien. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, on sélectionne.
Ouais, c'est clair. Quels sont les avantages que peut en retirer une entreprise comme Jabra? C'est la marque que vous valorisez avant tout.
Oui, la visibilité de la marque, hein, que vous portez au travers d'événements. Eux-mêmes porteurs de valeurs. Hein, donc, on est dans le sport féminin, on est dans la nature, on est. Bon, en plus, le golf d'Évian, de par sa situation, a des engagements environnementaux extrêmes, hein, puisque le parcours est situé entre la source d'Évian et le lac Léman. Donc, voilà, forcément, vous avez un certain nombre de précautions à prendre et pour en discuter très régulièrement avec Adrien Petrocelli, le patron des Greenkeepers, enfin le patron de l'équipe Greenkeeper d'Evian, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans leurs valeurs. Donc il y a les valeurs effectivement qui sont portées par le sport en lui-même. Et puis et quand je l'ai créé en 2016, c'était absolument pas dans les comment dire. Dans les discussions que l'on peut avoir aujourd'hui, il y a la démarche RSE. Et dans la démarche RSE, il y a l'égalité homme-femme, hein, qui est un critère fondamental. Donc, sans même l'avoir en tête au moment où j'ai créé le tournoi, aujourd'hui, je me rends compte que quand on fournit nos engagements RSE aux différentes institutions qui nous le demandent, bah, finalement, ce type d'événement apparaît dedans. On est dans le soutien du sport féminin, comme on peut avoir aussi des actions vis-à-vis des handicapés. Donc tout ça, finalement, sans même l'avoir calculé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas forcément de plan au départ, rien n'était calculé. Mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est pile dans les grands critères des démarches RSE d'entreprise. Et quand je discute avec de nouveaux partenaires que j'aimerais avoir sur l'aventure, parce que bah, pour développer un tournoi, bah, moi aussi, je cherche des partenaires. Donc beaucoup de monde me cherche, mais moi, je cherche aussi beaucoup de monde. Le problème, quand on m'appelle, c'est plus pour me demander de l'argent que de m'en donner. Donc, j'essaie de contrebalancer un petit peu. Mais ce qui intéresse nos éventuels partenaires, enfin, nos partenaires actuels et d'autres à rejoindre l'aventure, c'est aussi cette démarche-là. C'est comment le sport féminin, porteur de valeur, doit bénéficier de supports d'entreprise. Au même titre que le sport masculin et le sport pour les personnes handicapées. Mais bon, moi, je suis parti dans cette voie-là, donc je m'y tiens.
Le Jabra Ladies Open a permis, comme on le disait, c'était un tournoi qui offre une qualification pour un des majeurs. Ça avait permis notamment, si je me souviens bien, à Pauline Roussin-Bouchard, je crois, de jouer la Mundi Evian Championship alors qu'elle était encore amateur. Est-ce que c'est aussi la vocation de donner leur chance à un maximum de jeunes françaises et de contribuer à développer le golf en France?
On regarde que la France, il y a deux lettres hein, en France. Il y a l'Open de France, donc le Lacoste Ladies Open de France, et le Jabra Ladies Open. Donc on a deux tournois sur ce circuit-là. Effectivement, Pauline a failli remporter le Jabra Ladies Open face à Annabelle Dimock en 2019.
19.
Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid entre deux qui est. Nous supprimer une édition donc en 2019. Et à cette époque-là, on avait deux places pour ce qui s'appelait l'Evian Championship à l'époque, puisque la Mundi est
Oui.
arrivée après. Donc effectivement, elle est rentrée sur le majeur avec sa deuxième place au Jabra Ladies Open. Bon, voilà, à cette époque-là, on avait deux places. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Parce que aussi, il y a de plus en plus de tournois. Donc forcément, automatiquement, les critères d'accès au majeur ont un peu évolué. Puis le fait que la LPGA soit entrée en joint venture avec le LET a aussi modifié un certain nombre de critères. Mais c'est exactement ce que je le disais tout à l'heure. Cette année, sur le champ d'invitation, de mémoire, on en avait 11 invitations. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on en a donné 9. On en a donné 9 à des joueuses amateurs. Bon. Donc voilà, la démarche, elle est là. Et en fait, c'est ni plus ni moins l'inspiration de la Mundi Evian Championship, qui eux aussi ont pour vocation de repérer les talents au niveau mondial et de les faire jouer sur un majeur pour leur mettre le pied à l'étrier et en faire les grandes joueuses de demain. Donc, oui, on a vu des belles histoires. Quand on regarde les vainqueurs du Jabra Ladies Open depuis sa création. Alors, au début, c'était trusté par les Françaises. Quand bien même le tournoi était devenu à minima européen, il aura fallu attendre la quatrième édition pour voir une joueuse non française gagner, puisque dans l'ordre, la première, c'était Valentine Doré. Après, on a eu Isabelle Boisneau. Après, c'était Astrid Vaison de Pradenne. Et après, ça doit être Annabelle Dimock. Donc voilà, on a une. Et puis cette année, bon, Lynn Grant, entre toi et moi, sans grande surprise, parce que moi je l'ai vu gagner également le Jabra Ladies Classic la même année à Johannesburg. Et bon, elle a un niveau de jeu qui est ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'elle a encore de beaux succès à venir la concernant.
Comment une entreprise comme Jabra arrive à mesurer l'impact de son investissement dans le golf?
Alors, c'est un investissement, mais avec un retour sur investissement. Voilà. Parce que je pense que sinon, les quelques personnes au-dessus de moi challengeraient fortement l'activité, sachant que le contexte économique est quand même un petit peu compliqué en ce moment dans toutes les industries, y compris la nôtre. Donc, un investissement, bien sûr, puisqu'on est aujourd'hui… Si on a un prize money à 300 000 euros, je te laisse imaginer quel peut être le budget global pour tenir l'événement. Mais le prize money généralement représente un tiers de l'investissement total. Il est facile à faire. Donc ça, c'est l'investissement. Le retour sur investissement, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que pour le coup, c'est assez professionnel. Le golf permet de rencontrer des personnes, c'est secret pour personne, qui sont à chaque fois des personnes enrichissantes professionnellement et personnellement. Les deux existent. Clairement, c'est un vecteur de nouvelles rencontres qui sont pour la plupart des personnes issues du monde de l'entreprise et même de la grande entreprise, on va dire, qui nous permettent de se créer des réseaux. J'étais pas plus tard que la semaine dernière sur un événement de remise de prix effectuée par une grande chaîne d'information d'origine française. Bah, en fait, je me rends compte qu'on fait tous la même chose, hein. On essaye de fédérer les réseaux, de fédérer les connaissances pour développer des nouveaux projets ensemble. Donc, le retour sur investissement, il est là et c'est un secret pour personne. On sait très bien que le réseau professionnel se développe par le biais d'associations, par le biais d'organisations, par le biais d'événements, quels qu'ils soient, dans les stades, sur les parcours, etc. Donc, il y a un investissement évident avec une progression, mais un retour sur investissement que je mesure et que je présente au board chaque année.
Est-ce que ces investissements et ces retours sur investissement donnent envie de créer de nouvelles initiatives et de nouvelles collaborations?
Bon, si ça tenait qu'à moi, j'enverrais des projets de partout. Mais de partout. Il y a quelques années, je sais qu'au niveau du groupe, on a réfléchi au Tour de France, par exemple. Une société danoise, donc le vélo au Danemark, ce n'est pas une anecdote, et d'autant plus avec le grand champion qu'ils ont, qui enchaîne les victoires. Et puis en plus, le Tour de France est parti du Danemark l'année dernière. Enfin bon, bref, c'est devenu un événement. Ça a toujours été un événement phénoménal, mais bon, on s'est intéressé à cette hypothèse-là. On a aussi fait de la Ironman il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un sport qui se développe à une vitesse hallucinante, c'est le padel. Bon, moi, dans mes pays, en termes de responsabilité, j'ai l'Espagne. L'Espagne, grand pays de padel, grand pays de golf également. Donc, moi, je trouve qu'on devrait déployer plus de moyens. En sélectionnant nos événements et en les diversifiant, moi j'en ai parlé tout à l'heure, on est une société globale, on est présent dans le monde entier, Amérique du Nord, Europe, Middle East, Afrique, Asie-Pacifique. Moi, un des projets que j'adorerais développer, c'est un team. De développer un team qui pourrait avoir de la présence sur les différents circuits, ça pourrait être sur la LPGA, ça pourrait être sur le LET, mais avec une cohérence, avec une consistance, hein, qui serait axée autour de la performance, des valeurs des personnes, de créer une forte cohérence dans un team. Parce que des teams, enfin, le concept, c'est pas moi qui vais l'inventer, ça existe, ça a existé, ça a marché, ça n'a pas marché. Mais quand ça marche, et quel que soit le sport, j'ai regardé la série Au cœur du Tour. Comment ça s'appelle? C'est une série sur Netflix là, sur le Tour de France qui s'appelle Au cœur du Tour de France, je crois d'ailleurs. Bah, en fait, on voit c'est la cohérence des équipes, hein, qui fait la force, hein, qui fait leur force et qui leur permet de remporter des étapes. Donc ça, c'est un projet qui m'intéresserait, mais au premier plan. C'est ce que j'ai commencé à faire avec Anis, bon, pour l'instant, elle est toute seule. Mais bon, non, j'ai un petit partenariat également avec Liane Pace, hein, donc qui est une très belle joueuse sud-africaine. Voilà, bon, je peux pas dire qu'elle est sponsorisée Jabra, mais bon, elle fait partie des personnes qu'on essaie d'accompagner quand on le peut. Donc, moi, ça sera un projet. Mais après, il faudrait aussi réfléchir à multisport. J'ai des fondus de padel dans mon équipe. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un tournoi de padel qui s'organise avec des clients et des partenaires. Donc, Padel Golf, je trouve que ça va très bien ensemble.
Comment tu vois l'évolution du golf? Il se passe beaucoup de choses en ce moment, surtout chez les hommes. Ton sentiment sur ce changement qui est en train d'opérer, on sait que ce qui a fait énormément de bien, notamment sur le LET, l'Arabie Saoudite s'est aussi beaucoup impliquée dedans avec les Aramco Team Series, qui ont permis d'augmenter pas mal les dotations. Il n'y a pas eux. Parce qu'il y a le rapprochement avec le LPGA qui a aussi permis d'avoir des tournois doublement sanctionnés. Mais est-ce que la direction que prend le golf aujourd'hui, elle te plaît?
Alors, je ne suis pas un expert dans tout ça, mais bon, comme tout le monde, je me documente, je me renseigne, j'écoute les experts. Bon, déjà, si on regarde que le LET, en 2019-2020, enfin surtout 2019, il allait prendre le bouillon. Hein, le LET aurait pu très bien disparaître si cette joint venture avec la LPGA ne s'était pas mise en place, et donc l'apport de moyens pour essayer de remonter la pente. Bon, je pense aussi que l'arrivée d'Alexandra Armas a fait beaucoup de bien, parce que Elle s'est engagée cœur et âme pour faire que ça fonctionne. Bon, aujourd'hui, on est revenu sur une situation pas confortable, mais il y a beaucoup de tournois, enfin, beaucoup plus en tout cas, avec des prize money qui sont jamais en dessous de 300 000 euros. Bon, les Aramco sont venus se greffer dessus, très bien, apport d'argent, donc bah, ça ne peut faire que du bien au sport. Certaines joueuses bénéficient également de partenariats, donc ça les supporte également financièrement dans la pratique de leur activité. Voilà, j'ai pas plus d'avis que ça, à part que l'apport de moyens était nécessaire et une fois n'est pas coutume, ces moyens viennent encore à peu près du même endroit que ce qu'on a vu arriver chez les hommes. Où là, je ne ferai pas de commentaires parce que je n'ai pas forcément d'avis personnel entre le livre, la PGA, les conflits qui se sont mis en place entre les joueurs, certains qui partent et d'autres qui ne veulent pas partir. Et puis finalement, tout ça redevient un seul et unique ensemble, si mes informations, en tout cas les dernières, sont à jour. Tout ça a fini par la force. Par les moyens, hein, parce qu'on parle d'argent ici, tout ça a fini par se regrouper parce que, bah, il y avait a priori, j'imagine, pas beaucoup d'autres alternatives hein, que de céder à la pression et potentiellement à la destruction de cette organisation qui est en place depuis la nuit des temps et qui allait commencer à sérieusement être secouée. Bon, moi je pense que plus il y aura de moyens, mieux ce sera. Maintenant, et c'est peut-être un peu vieux jeu que de répéter tout le temps la même chose, mais il y a un écart de moyens tellement énorme entre les hommes et les femmes, et c'est dans tous les sports. Alors je suis un peu plus documenté sur le golf forcément que d'autres sports, mais pour en discuter avec d'autres personnes dans le hand, par exemple. Bon, il y a des écarts de moyens qui sont juste énormes et qui ne sont pas justifiés en plus. Alors, ça doit être justifié, j'imagine, par l'aspect médiatique, à savoir le golf masculin est diffusé, retransmis par de nombreuses chaînes dans le monde pour voir du golf féminin à la télé en France, par exemple. Alors, notre chaîne principale de golf en diffuse un petit peu et surtout au moment du majeur. Avec des retransmissions également sur l'Open de France, mais et le Jabra des Open, puisqu'on a un 36 minutes qui est également diffusé, mais pour le reste, c'est rien du tout, quoi. Si vous n'allez pas sur les applications, vous êtes au courant de rien, quoi.
Est-ce que justement, est-ce qu'on a envie d'essayer de changer les choses quand on est impliqué comme ça dans un tournoi pour donner plus de visibilité au golf féminin, notamment médiatiquement? Parce que l'Open de France, ça fait, je crois, 2 ou 3 années qu'il n'est pas produit par le Ladies European Tour, donc pas diffusé, on n'a pas d'image. Le golf féminin est partagé entre golf, enfin, et surtout au sein de Golf Channel France, avec juste les majeurs, 2 majeurs, 3 majeurs qui sont diffusés par Canal+. Est-ce qu'on devient acteur un peu pour promouvoir le golf féminin auprès des médias?
Voilà, on va parler de moyens en fait. Voilà, moi je connais les budgets, je connais les budgets que pourraient être demandés par la société de production que l'on voit sur un certain nombre de lettres. Bah en fait, après c'est des décisions qui sont prises en fonction des priorités. Moi ma priorité c'est d'apporter de la qualité et du service aux joueuses. De continuer à travailler avec Evian pour que à chaque fois qu'elle rentre sur le tee numéro 1, le premier jour du tournoi, elles se disent, bah voilà, je suis à Evian, je vais jouer un majeur et si je gagne cette semaine, bah je pars sur la Mundi dans un mois ou deux. Bon, de donner de la médiatisation, c'est possible, mais c'est des budgets très importants. Très importants. Mais oui, si on pouvait tout faire, on ferait tout.
Quelle est ta vision du golf en France?
Alors, une fois de plus, c'est une question qui peut être politiquement interprétée. J'ai l'impression que ça stagne. Après, on viendra toujours me démontrer par les chiffres qu'il y a une progression sur le nombre de licenciés, et tant mieux, parce que je crois que c'est le cas en plus. Mais je vois une certaine forme de stagnation. Je me demande pourquoi. Et une fois de plus, c'est avec beaucoup d'humilité, parce que je ne veux pas apporter un jugement sur quelque chose que bien d'autres personnes maîtrisent bien mieux que moi. Bon, on a vu que Victor Dubuisson avait raccroché les clubs, là. Il y a quelques jours, bon, il est considéré comme ayant été un génie du golf. Bon, il a eu un certain nombre de victoires. Est-ce qu'il en a eu suffisamment? Je ne sais pas à moi d'en juger, mais c'est un génie a priori dans la pratique, donc il aurait peut-être dû avoir plus de succès, je ne sais pas. vainqueur en majeur dans le golf féminin 2003-2023, il y a 20 ans d'écart. Est-ce qu'on a les talents de demain pour aller remporter des tournois sur le circuit américain? Bon, on va le voir, puisqu'on a entre autres Mathieu Pavon là, qui rentre dans l'aventure. Donc, moi, je dirais une forme de stagnation, mais une fois de plus, est-ce que c'est à moi que la question doit être posée? J'ai développé une forme d'expertise dans le golf féminin, ça c'est sûr. Mais voilà, je ne veux pas non plus me prononcer sur des sujets que je ne maîtrise pas forcément. Moi, je dirais stagnation, mais avec une fois de plus, beaucoup d'humilité. Je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. Mais par contre, effectivement, je vois des. Essentiellement, je vais parler encore des filles, mais je vois, parce que c'est essentiellement elles que je vois jouer. Il y en a quand même un certain nombre qui ramènent des cartes parfois qui sont fabuleuses. Moi, je le vois. Elle, pour le coup, je peux vraiment en parler parce que je la connais bien. Bon, bah, Anne-Lise, c'est sur le deuxième jour de l'Open d'Espagne. Elle rapporte la carte du jour. Avec un moins. Du coup, je peux me voir si c'est moins 5 ou moins 7, mais. Enfin, déjà, quand on ramène une carte à moins 5 ou moins 7, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a nécessairement du talent et du travail. Et est-ce qu'on arrive à porter ces joueuses-là suffisamment au-delà de leur carrière d'amateur, enfin de leur carrière, en l'occurrence, ce n'est pas une carrière, mais au-delà de leur statut amateur. C'est-à-dire que vous êtes amateur, vous êtes supporté, et quand vous ne l'êtes plus, quand vous passez pro, il y a un peu tout le schéma qui disparaît. Quand je vois le staff, alors c'est un majeur, mais quand je vois le staff qu'il y a autour des joueuses asiatiques, staff autour des joueuses européennes, bon, en fait c'est pas la même quoi. Alors c'est pas les mêmes moyens, mais vous n'avez pas les kinés, les physios, le coach, l'entraîneur, bon voilà, il y a une différence de niveau dans la plupart des cas, mais il y a aussi probablement une différence d'investissement et peut-être d'entraînement et peut-être d'accompagnement. Les parcours universitaires, bah c'est simple, hein. Si vous voulez avoir une chance, ça se passe aux US. Hein. J'ai une apprentie qui est en école de commerce qui a fait une fac aux US. Bah, elle a fait une fac aux US parce qu'elle savait que si elle voulait tenter quelque chose, c'était là-bas que ça se passait, et pas ailleurs. Donc, on a les structures d'encadrement adéquates, même pas qu'en France, en Europe? Bah, peut-être pas, en fait.
Est-ce que tu as encore le temps de jouer au golf? Et tu prends le temps de jouer au golf?
Bon, en ce moment, c'est même pas que je prends le temps, c'est que j'ai juste pas envie d'y aller parce que on a quand même eu quelques semaines un peu pénibles, hein. La météo est quand même pas cool. Alors, si j'ai joué le Pro-Am à l'Open d'Espagne, là, il y a 2, 3 semaines. Donc là, on était avec 20 degrés, soleil accroché dans le ciel. Donc là, c'était superbe. Mais là où je joue en Normandie, bon, c'est un peu humide, on va dire. Donc, j'ai pas joué depuis l'Espagne, j'ai pas joué. Mais oui, j'ai le temps, j'ai le temps le week-end. J'ai le temps le week-end et puis, si tu veux, étant acteur dans le monde du golf, je suis aussi invité régulièrement sur des événements, pro-am ou pas pro-am, mais c'est souvent des pro-am. Donc voilà, j'ai aussi toutes ces occasions qui jalonnent l'année. J'ai l'Afrique du Sud aussi, où j'ai plaisir à aller pour y jouer le pro-am. Donc ouais. Alors, des occasions de jouer des pro-am par an, j'en ai 10-12. Donc tu vois, il y a 12 mois dans l'année, donc potentiellement c'est quasiment une fois par mois, quoi.
Bien. Ouais, c'est bien. Et donc, le Jabra Ladies Open, tu disais 2024, 2025, 2026, Jabra sera présent aux côtés du tournoi. Donc,
Il y a 2 ans, on a renouvelé le contrat avec Franck Riboud parce qu'on a créé en 2016 et 2026, ça fera 10 ans. Donc on s'est dit, bah, tiens, on ne va pas attendre. Donc le contrat devait s'arrêter en 2023, je crois, à l'origine. Ouais, on avait dû signer 2023, mais je me suis dit, bah, tiens, on va rajouter 3 ans pour être sûr de souffler les 10 bougies, donc en 26. Donc je pense que bah, d'ici là, on a encore un petit peu de temps et donc de travail à effectuer pour que 2026 soit une année encore, enfin une édition encore un peu plus particulière que les autres.
Jusqu'à aller inviter des joueuses du LPGA, par exemple.
À part ça, après, il faudra voir pour avoir les critères et les possibilités, parce que c'est une fois de plus, ce n'est pas moi qui constitue les champs de jeu, hein, ils se constituent par eux-mêmes avec la performance, les invitations. Et voilà, ce que je sais, c'est que bah, chaque année, on a 132 joueuses. dont je sais plus si c'est 10 ou 11 invitations. Donc le champ est de, voilà, de 132, on ne peut pas aller beaucoup au-delà parce que après, il faut que, voilà, il faut qu'elle puisse jouer pendant les heures où il fait jour. Mais on a un champ de joueuses qui évolue chaque année. On voit chaque année des. Cette année, il y a Céline qui est venue jouer, Céline Herpin, pardon. Voilà, chaque année, on voit des nouvelles joueuses venir se dire, tiens, bah, je vais aller tenter ma qualif sur un majeur ou chercher des points. Donc, on est chaque année, on est fiers de voir les joueuses sur les départs, quoi.
Ouais. Et puis avec le fait qu'il se joue en plus sur le même parcours que le majeur, donc c'est une répétition intéressante, quoi, pour...
Voilà, et donc nous, on joue fin mai, et le majeur, cette année, si je ne me trompe pas, ça avance un tout petit peu par rapport au JO. Donc ça doit jouer sur les alentours du 14 juillet. Donc on a un mois et demi d'écart entre le Jabra et l'Amundi. Donc une fois de plus, pour ne reparler de lui, Adrien Petrocelli le dit, il prépare le Jabra. En vue du majeur. Donc, il y apporte le même son. Alors, c'est pas les mêmes tailles d'équipe, etc. Je sais pas de me comparer, mais le fait est que l'on joue au même endroit.
Merci beaucoup Jean-Baptiste de ton temps et de ta disponibilité. Merci beaucoup de tes réponses. Et puis j'en profite pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne continuation dans le golf en 2024 et les années qui suivront avec le rendez-vous du Jabra Ladies Open au mois de mai.
Avec plaisir du 23 au 25, ouais. Avec le programme le 26. Bonne fête.
Merci, au revoir Jean-Baptiste. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlonsgolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.